Eh bien, bonjour à tous, merci d'être là. Bienvenue à cette table ronde qui a pour thème technologie versus effondrement. Pour en débattre et pour échanger sur ces sujets, nous avons le plaisir de réunir Sylvie Denis, qui est novelliste, romancière, essayiste, critique, anthologiste, traductrice et rédactrice en chef. Un peu, quand même. Autrefois. Bon. Jean-Noël Lafargue, universitaire et chercheur, expert en technologie, enseignant en art et nouveaux médias, et puis récemment auteur de bande dessinée. Philippe Aubert-Côté, romancier, docteur en sciences biomédicales et bioéthiques, et peut-être plein d'autres choses que j'ignore. Ancien professeur. Milad Wei, historien des religions et titulaire de la chaire d'humanisme numérique à l'université de Paris-Sorbonne. Et le romancier Alain Damasio, qu'on ne présente presque plus, surtout ici, aux Utopiales. Et je voudrais commencer par un petit texte pour introduire un peu le sujet. Nous vivons dans un monde où règne principalement la croyance en un mythe du progrès, linéaire, au sein d'une nature sans limite, dominée par l'homme. Homme qui deviendra peut-être demain immortel, grâce au progrès de l'intelligence artificielle et aux nanotechnologies, si l'on en croit la volonté d'un groupe comme Google et son futurologue Ray Kurzweil. Et donc, on peut souhaiter bienvenue aux hommes-machines, le transhumanisme est en marche. Cette vision technologique recèle toutefois un côté sombre, le hacking, la cybercriminalité, une intelligence artificielle qui pourrait dépasser celle de l'être humain, voire se retourner contre lui. Stephen Hawking, Noam Chomsky, Elon Musk et plus de 1000 chercheurs en intelligence artificielle ont par exemple appelé l'année dernière à interdire les armes autonomes. Mais ce monde de haute technologie, de croissance totale, quelles que soient ses vertus ou ses dangers, ne peut tout simplement pas advenir, si l'on en croit, un certain nombre de chercheurs. À commencer par le fameux Club de Rome et le rapport Meadows en 1972 sur les limites de la croissance. L'Institut Momentum nous alerte depuis quelques années sur les chocs à venir et nous invite à penser et agir les issues de l'Anthropocène. Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont initié le mouvement de la collapsologie. Des études de la NASA annoncent l'effondrement de notre civilisation dans un futur proche. Certains, comme l'économiste Paul Jorion ou le professeur de microbiologie Frank Fenner, pensent qu'il est même déjà trop tard pour l'humanité, qu'elle ne dépassera pas le siècle en cours. Le déclin serait déjà là, irréversible, on manquerait juste un peu de recul pour s'en rendre compte. L'épuisement des ressources naturelles et énergétiques, des minerais, métaux, fossiles, la sixième extinction de masse en cours des espèces, la destruction des sols, le dérèglement climatique, la pollution généralisée, etc. Tout nous mènerait vers une impasse fatale. Et là, je voudrais donner une définition, enfin plutôt celle d'Yves Cochet, qui est très pragmatique, qui dit « un effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. » La représentation du futur est peuplée d'innombrables fictions post-apocalyptiques. L'homme excellent dans l'art d'imaginer sa propre fin. Toutefois, l'effondrement n'est pas forcément la fin du monde. Certains y voient même une occasion à saisir. Il y a un lieu que l'on connaît bien à Nantes qui semble concrètement incarner l'opposition de ces deux récits, celui de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Au-delà de la lutte engagée entre pro et anti-aéroport, se tient un combat entre deux visions du monde radicalement opposées. Pour le dire vite, le clan du business as usual et le clan du monde post-carbone qui prépare le monde d'après. Et alors là, je crois qu'on a introduit un petit peu le débat. Donc j'en viens à ma première question qui est assez générale et plutôt liée au réel. On abordera l'aspect créatif par la suite. Et je voulais vous demander si la poursuite du développement high-tech au sein d'une société consumériste, avec dans un monde aux ressources limitées, vous semble compatible avec l'état de la planète et même la survie de l'humanité, du vivant. Est-ce que quelqu'un veut commencer à parler de ça? Peut-être Jean-Noël, qui, parce que tu es métisse un peu dans cette table ronde, c'est-à-dire que tu connais bien l'intelligence artificielle, tu connais voilà, et puis de l'autre côté, tu fais partie d'une association qui s'appelle Adrastia, qui parle de déclin. Alors, je me dis que tu es peut-être pas mal placé pour commencer à en parler.
Oui, puis j'ai sorti un livre aussi sur la fin du monde, donc je m'intéresse au thème et à la manière dont petit à petit on s'est rendu compte que la fin du monde pourrait arriver de notre propre fait, pour des raisons écologiques. Et voilà. Et effectivement, ça ressemble à une fuite en avant. On a vraiment l'impression de brûler toutes nos cartouches, petit à petit, avec tout un tas de minerais qui vont disparaître, mais dont on a un besoin vital. Par exemple, personne ne parle jamais du coltan, qui est, on en parle peu, qui est un minerai qu'on trouve au Congo et qui est déjà la cause d'une guerre de 6 millions de morts. C'est monstrueux. Mais le coltan sert à beaucoup de choses, mais avant tout, il sert dans vos téléphones portables. Sans lui, on n'a pas de téléphone mobile. Donc c'est... Toutes nos actions ont une conséquence et c'est normal de s'inquiéter pour ça. Voilà. Moi, je ne suis pas prophète. Je ne vais pas vous dire que dans 20 ans, 30 ans, le monde ne sera plus soutenable, mais je pense qu'il va beaucoup changer. Voilà.
Une question que je me pose face à toute cette problématique, c'est qu'on prend souvent acquis que la technologie est responsable de notre malheur. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment elle qui est responsable de notre malheur ou c'est pas autre chose, comme des mauvais modèles économiques ou des mauvais modèles politiques? Pourquoi la question me vient à l'esprit, c'est que j'ai un flash d'un roman dont j'ai oublié le titre, mais qui avait été écrit par Michael Swanwick, et qui nous proposait une variation sur l'histoire du Dr. Faust. Dans ce roman-là, on imaginait un Dr. Faust, donc du 16e siècle, qui rencontre Méphisto, et Méphisto lui livre les secrets d'une science en avance sur son temps, les lois de la thermodynamique, le E égale MC2, et tout ça. Et le propos de l'auteur était de montrer que Faust, en faisant rentrer l'Europe prématurément dans la révolution industrielle, causait la perte du monde. Ce qui m'avait achalé dans le roman, c'est que Méphistophélès ne faisait pas juste que donner à Faust une nouvelle science, des nouvelles connaissances. Il lui communiquait aussi des choses comme la loi de l'offre et la demande, le modèle capitaliste, le modèle économique, tout ça. Et en lisant le roman, je me disais, mais de quoi l'auteur veut-il parler? Est-ce qu'il veut parler des méfaits de la technologie ou il veut parler des méfaits du capitalisme et de l'économie? Si l'auteur avait imaginé que Méphistophélès avait donné à Faust un autre modèle économique, est-ce qu'il aurait pu sauver la planète? Et des fois, dans les discussions que j'entends autour des questions qui nous préoccupent aujourd'hui, j'observe souvent cette confusion-là. On associe progrès, modèle économique, développement technologique, scientifique, pur, dur, mou, tout ce que vous voulez. Et il me semble qu'on les confond ensemble. Mais est-ce qu'on ne devrait pas les séparer et se poser la question, est-ce que c'est la science qui cause notre effondrement ou si ce n'est pas autre chose?
Sylvie veut peut-être intervenir.
On n'est pas encore dans l'effondrement, pour autant que je sache. En tout cas, là, ça a l'air de fonctionner à peu près correctement autour de nous. Par contre, oui, ça me semble une piste intéressante de séparer système politique et science et technique. Parce que jusqu'à présent, on a connu à la fois un système grossièrement capitaliste et le développement économique. On n'a pas l'habitude de les séparer parce qu'on ne connaît pas autre chose. On n'a pas eu l'occasion de tester, ou alors dans des conditions telles que on peut douter de ces choses-là.
On n'est pas dans l'effondrement, mais de quoi on parle? Effectivement, là, nous, on a l'électricité, c'est super. Il y en a dans le monde qui en ont pas. On ne peut pas nier l'effondrement des espèces animales actuellement. On ne peut pas nier la déplétion des ressources. On ne peut pas nier les sols qui sont de plus en plus pauvres. Il y a des choses... Moi, je veux bien qu'on ne parle pas de tout ça et qu'on fasse comme si tout allait bien. Mais est-ce que c'est soutenable ce qu'on est en train de vivre actuellement ? Et si on n'est pas juste dans notre propre confort personnel ici, sur cette scène à Nantes ? Parce que ça va nous rattraper aussi à un moment, ça. Le fait de pouvoir se nourrir convenablement, avoir les besoins de base.
Si on considère la totalité de l'histoire de l'humanité, nous sommes les premiers êtres humains à bénéficier du confort que nous avons. Nous avons des vaccins, on ne meurt pas de maladies en masse entre l'âge de 0 et 5 ans, sauf dans certaines parties du monde, effectivement, pour des raisons que nous connaissons, parce que nous savons en général, comment ce monde fonctionne.
Oui, et du coup, c'est vrai que par rapport à ta question, peut-être qu'il faut interroger le productivisme, pas seulement le capitalisme, mais le productivisme. Le capitalisme, peut-être que c'est un facteur d'accélération du productivisme, puisqu'on a des besoins qui sont créés sans arrêt, avec une consommation de jetables aussi, des choses qu'on ne peut pas recycler. Donc, dans un monde qui n'est pas soutenable, c'est une position éthiquement qui ne paraît pas acceptable, sauf à être dans le déni, en fait. Je sais pas, Alain, vous voulez...
Oui, non, simplement, moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Philippe Aubert à côté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un couplage mortifère aujourd'hui, c'est le couplage, effectivement, du consumérisme, du capitalisme et de la technologie, quoi. C'est tout à fait possible, en tout cas intellectuellement, d'imaginer une approche technologique que moi j'appellerais épicurienne, c'est-à-dire au sens où Épicure n'est pas l'apôtre des plaisirs, mais l'apôtre de celui qui est capable de distinguer entre les désirs vains, les désirs naturels, et de se débarrasser de cette compulsion, à la luxure technologique, au plaisir, et de ne pas être capable d'arbitrer dans ces technologies entre celles qui nous sont réellement utiles, celles qui nous permettent de mieux vivre, celles qui nous permettent de nous relier aux autres, de construire des vies qui font sens et un vivre ensemble qui fait sens, plutôt que de consommer de façon absolument excessive du réseau. Parce que faut voir ce que consomme aujourd'hui le réseau Internet. Hein. On sait que... Enfin, moi, les derniers chiffres que j'avais, c'était qu'à l'horizon 2020, rien que le réseau Internet allait consommer 50% de la production électrique mondiale, tu vois, donc c'est-à-dire qu'on est en train de générer un double de notre monde dans lequel on carbonise une énergie colossale alors qu'il est censé être simplement virtuel. En fait, il est extrêmement réel et les centrales nucléaires fonctionnent uniquement pour alimenter des fermes de serveurs de Google, etc. Donc, je pense que c'est ce couplage effectivement qu'il faut interroger. C'est pas la technologie forcément en tant que telle, mais cette espèce de rapport, je dirais, sobre, intelligent, mesuré à la technologie. Là, ce qui nous tue, c'est que le capitalisme a engendré un monstre qui est le technocapitalisme, quoi, voilà, qui pousse au maximum à l'optimisation par la technologie de la consommation. Quoi.
Vous vouliez intervenir aussi ?
Oui, juste une remarque très, très rapide. Il y a une lecture de cette nécessité à la fois de dissocier la science de la dimension économique aux États-Unis au début du XXe, on va dire, par une des grandes figures philosophiques, Charles Sanders Peirce, qui parle, et l'expression américaine, elle est très belle, « the greedy master of intelligence », le maître vorace de l'intelligence. Il dit le problème de l'héritage du XIXe, c'est qu'on a associé la science au profit, alors qu'il fallait faire autre chose. Il a une critique assez remarquable qui a été presque oubliée aujourd'hui et quand même qui a des traces dans la vie intellectuelle américaine qui va dans le sens un petit peu de ce divorce entre d'un côté le marché tel qu'on le connaît aujourd'hui et d'autre côté effectivement d'autres façons de faire avec qui ne sont pas seulement du consumérisme, je veux dire, et je crois que c'est important de dissocier les deux. Après effectivement la question de l'anthropocène et écologique elle est autre aussi parce que là on a dépassé, c'est pas juste le capitalisme mais c'est beaucoup d'autres aspects et dimensions, mais en même temps, et je vais m'arrêter très vite, on a eu beaucoup de récits de la fin du monde, mais je crois effectivement depuis presque toujours, si j'ose dire. La question qui se pose, est-ce qu'aujourd'hui c'est différent ou bien on est en train de fabriquer aussi un récit à notre façon, avec les éléments qui nous sont disponibles, quelque chose qu'on a vécu dans notre histoire et dont on a beaucoup d'éléments pour essayer de le saisir et le comprendre, pourquoi et pour quelles raisons.
Jean-Noël, peut-être tu voulais...
Oui, alors ce que j'ai remarqué en travaillant sur la fin du monde, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des grandes prédictions, que les gens ont eu vraiment... sont vraiment entrés dans une phase de fin du monde imminente, par exemple, je sais pas, Fra Dolcino au Moyen-Âge ou d'autres. c'était pour changer le monde socialement, et c'était vraiment dans l'idée qu'il fallait changer quelque chose, retourner les valeurs, notamment financières. Par exemple, les Dolciniens disaient qu'il fallait vivre comme les apôtres et pas vivre sur leur dos, finalement. Et pour ça, ils ont été torturés horriblement. Voilà, vous vous rappelez peut-être du nom de la rose où on a des allusions à ça. Ouais.
Et ça serait assez culturel, du coup.
Alors ça, c'est une chose. Disons que très souvent, on pensait que la punition allait venir de Dieu, mais ça servait comme ça à se dire qu'il fallait tout changer. Et ça a été vrai au 19e avec diverses sectes millénaristes. Mais depuis la bombe atomique, il s'est passé quelque chose. On a l'impression que la fin peut venir directement de nous, de notre démesure, quoi. Et puis voilà, et l'écologie en a rajouté une couche. Mais quand même, disons, on n'a pas l'impression d'être dans un effondrement. Mais si on regarde bien les chiffres, l'uranium, par exemple, baisse, le pétrole aussi, etc. Il y a de vraies raisons de s'inquiéter à assez court terme, en fait. Et on sait comment ça se passe. Ça se finit forcément par des guerres. Alors, pour le moment, les guerres sont un peu loin, mais elles se rapprochent sans doute.
Et vous, Milad, vous parlez d'un humanisme numérique, justement. En quoi la technologie, le numérique, peut s'inscrire dans une voie possible, soutenable, selon vous, en fait?
Je crois qu'elle le peut. Et effectivement, le mot humanisme ne doit pas nécessairement être emprisonné dans une tradition qui n'est que la réception, qu'elle soit réactionnaire, conservatrice ou l'opposé de la Renaissance. Tout d'abord, il me semble. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va toucher à l'humain. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de comprendre les liens entre, on va dire, le digital, le numérique d'un côté et les versions humanistes, en insistant sur la dimension spatiale et pas seulement, je veux dire pourquoi c'est important pour moi, temporelle. On a tellement insisté sur l'accélération et ainsi de suite qu'on a oublié quand même que ce que le numérique a fait en quelque sorte de plus intéressant, il a modifié notre rapport avec l'espace. D'une façon assez radicale. Et du coup, l'espace habitable a été transformé. C'est là où je vais arriver, on va retrouver avec nos questions. Et c'est là, c'est la vraie question humaniste aujourd'hui. Comment habiter l'espace qui a été réinventé par le biais du numérique? Et là, je crois, on a beaucoup de choses qu'on peut essayer de réfléchir. Pour prendre les récits de l'effondrement, si on va aller dans cette dimension, il me semble qu'on a un héritage qui est biblique, celui du golem, qui façonne d'une façon très très puissante toujours notre manière d'expliquer comment on va interagir avec nos inventions, que ce soit l'intelligence artificielle, l'informatique ou la technique et les technologies. Et je crois que c'est un préjugé énorme qui fait obstacle. Il faut sortir de ce piège. Si je parle de ça, et après je vais m'arrêter, passer la parole à mes collègues, c'est que Norbert Wiener, déjà en 1950, a fait un remarquable bouquin, God Golem Incorporated, pour dire qu'il faut faire gaffe, il faut vraiment penser autrement parce qu'on a changé de registre avec la bombe atomique et avec l'informatique. Je crois que c'est là où on a des choses, des pistes de réflexion et de voies pour essayer de sortir un petit peu du piège des récits qu'on ne cesse de se répéter.
Sur ce sujet, vous avez une autre réaction?
Ouais, je crois que ce qu'il dit est très juste sur le... Il y a un côté, moi j'avais étudié un petit peu la figure du robot, comme ça, il y avait une très belle exposition à la maison d'ailleurs là-dessus, sur cette figure du robot comme métaphore de la condition humaine. Et c'est vrai que le mythe du golem est assez fondamental parce que c'est le moment où on crée une créature, on s'arroge l'espèce d'arrogance de créer à la place de Dieu quelque chose. Et du coup, Dieu finit par nous punir, ou en tout cas le retournement et la punition est immédiate. Et on est hanté un peu par ces figures-là, ces figures mythologiques-là qui faussent parfois notre perception. Moi, je crois que dans la logique de l'effondrement, moi, ce qui m'intéresse dans ces récits, c'est que j'ai vraiment l'impression que, bon, il y a un vrai double rôle. Il y a un rôle très classique en science-fiction qui a un rôle de choc de conscience ou d'alerte, c'est-à-dire qu'en imaginant le pire, en le mettant en récit, en faisant des romans et des films, on met les gens face à quelque chose qui va les secouer et qui leur donnera normalement envie de dévier cette fameuse bagnole qui va contre le mur on nous le répète sans arrêt. Et donc ce choc de conscience est important. C'est un des rôles de l'ASF d'avoir cette fonction d'alarme, elle l'a toujours eu, quoi. Et il y a quand même un côté, pour moi, qui reste super grec, qui reste extrêmement classique, qui est un côté de catharsis, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que de purification des émotions négatives. Et c'est clair que nous, auteurs, on a une jouissance à faire des systèmes qui s'effondrent. On a une jouissance à faire des récits post-apo, quoi. Tu vois, c'est
pas
évident.
Pas du tout.
Je pense que les lecteurs ont une jouissance aussi à vivre et purifier leur peur à travers cet effondrement maximal. Tu sais, quand tu te dis, bon, j'aime autant imaginer le pire, comme ça, s'il arrive, ça liquéfie en quelque sorte mes peurs, ça les dissout et ça les purifie, quoi, tu vois. Et ce côté catharsis, je crois qu'il est hyper important et il explique l'espèce de fraîcheur et de renouvellement permanent du récit de l'effondrement qu'on a. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout à l'effondrement, par exemple, malgré tout ce qui se passe. Parce que je pense que l'être humain a une faculté d'adaptation absolument fabuleuse, à une force de résilience colossale, et qu'au moment donné, on va vraiment se rapprocher du mur, on mettra un gros coup de volant ou un gros coup de frein, et puis qu'on arrivera à retourner la situation. Mais par contre, on a besoin de ces récits pour justement amorcer la prise de conscience et amorcer le choc.
Alors là, ça, on est dans un discours qui nous donne encore énormément de puissance. C'est-à-dire que là, on maîtrise encore tout dans cette façon de raconter les choses. Non ?
On n'a jamais rien maîtrisé de toute façon. Hein.
Dans le discours de « on va ». Oui, mais on a quand même une certaine envie de maîtriser les choses, de prendre part sur la nature, de s'accaparer des choses sans penser à la soutenabilité qu'il y a derrière. Donc, il y a une envie de puissance qui est très forte chez nous.
Il y a une envie d'action, évidemment, chez l'homme, parce qu'il interagit avec son environnement et qu'il a besoin de ça pour exister, pour s'exprimer, etc. Je pense qu'on est, effectivement la première civilisation qui a ce problème d'avoir créé un système et de vivre au sein d'un système qui nous dépasse totalement, parce qu'il y a 7 milliards d'individus sur cette planète et que c'est un système quasi chaotique et qu'on ne peut pas prévoir ce que va faire la totalité du système. On peut parfois modéliser quelques petites choses, on peut inférer des choses, déduire des choses, mais on ne peut pas tout prévoir. C'est pour ça que c'est intéressant d'écrire de la science-fiction, d'ailleurs. Par contre, on est probablement aussi, en tout cas une petite partie du monde moderne, les seuls à justement être capables d'avoir des récits historiques. Dans ce cadre-là, je ne fais pas de différence entre l'histoire et entre la fiction. On est capable de se donner un récit qui nous permet de comprendre où nous en sommes, ce qui est beaucoup plus que ce qu'ont eu la plupart des civilisations dont nous savons qu'elles se sont effondrées, comme Rome, comme l'île de Pâques. Il y a un livre très intéressant de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement, où il raconte, où il reprend des documents et où il explique comment les gens de l'île de Pâques en sont arrivés là où ils sont maintenant et pourquoi il n'y a plus d'arbres, parce qu'ils ne se sont pas aperçus de rien, ils n'avaient pas les connaissances. Nous avons les connaissances.
Ah bon ?
Je ne sais pas si c'est exactement ce que veut dire Jared Diamond. Moi, j'ai compris surtout, on est en train de mourir. C'est ce que j'ai compris dans son livre.
Ça, c'est parfait. Oui, mais non. Oui, oui, on a un problème, mais on a aussi les outils. Et on est beaucoup plus nombreux à avoir des cerveaux et des outils que ne l'ont jamais été les humains, tous les humains qui ont vécu autrefois. Et on a Internet.
Ah ben, on est sauvés.
Mais souvent, c'est vrai que les problèmes, on les laisse assez loin de nous, en fait. L'île de Pâques, on peut se dire qu'ils étaient bêtes, c'est tout petit.
Ils n'étaient pas plus bêtes que nous.
Oui, je veux dire, c'est intéressant à la fois ce qui vient d'être dit, juste de remarques, il me semble. Si on prend le modèle grec avec la catharsis et ainsi de suite, moi je dirais ce qui est intéressant dans le modèle grec en même temps de ce qui vient d'être dit vis-à-vis la crise, c'est la ruse, cette notion de la métisse qui est essentielle et qui, en face d'un système qui est tellement dominant et tellement puissant, il y a toujours ces petits moments, illustrés par Ulysse, comme par d'autres figures, de la ruse, et qui jouent un rôle tout à fait déterminant, et on se trouve dans cette position, si j'ose dire. L'autre aspect qui est intéressant, qui est aussi une question grecque, curieusement, on n'est plus dans le monde latin, malgré tout, c'est que ce qui fait peur dans le système qui nous dépasse, qui n'est plus accessible à notre contrôle, c'est l'autonomie interne du système où on n'a plus en moyen d'intervenir. C'est ça qui explique en gros ce que vous avez cité sur l'intelligence artificielle. Elle va être autonome, s'autogénérer et on n'a plus le moyen, elle va nous dépasser. Que ce soit un rêve ou un fantasme, mais c'est cette question d'autonomie qui a été le privilège de l'humain malgré l'imaginaire qu'on a pu, qui aujourd'hui semble un peu fragilisé. Je crois que c'est un des sujets qui est le plus...
Oui. Jean-Noël.
Oui, sur l'intelligence artificielle, souvent il y a l'idée qu'elle va nous punir aussi, que la première chose qu'elle voudra faire, c'est nous faire du mal. Et j'ai regardé une série, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Cléopatra 2525, hein, qui est une série assez légère, quoi, assez drôle. Et ça se finit, on découvre, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas connaître la fin, on découvre que finalement les Baileys, donc les méchants qui ont colonisé la Terre, qui empêchent les humains de vivre à la surface et qui tuent tout le monde, en fait sont des robots qui ont été fabriqués pour régler les problèmes écologiques de la Terre et qui un jour se sont rendus compte que le problème écologique de la Terre, c'était l'humain. Et donc, ils sont devenus une menace mortelle pour nous. Et il y a très souvent cette histoire de créature, notre créature, qui nous punit de notre démesure, alors que c'est nous qui l'avons créée. Voilà.
Bon, je crois que c'est... Je crois que c'est la recette hollywoodienne. C'est le modèle classique. On crée une créature, elle va nous imiter. Elle essaie de le faire. Au début, c'est passionnant. Après, c'est ennuyeux. Après, en regardant autour d'elle, parce qu'elle a appris cette créature, elle décide qu'il faut nous perfectionner. Évidemment, ça ne peut pas se faire. On essaie d'éliminer. Je crois que je dirais, on résume assez vite, mais c'est souvent ce qu'on a. Ça gagne beaucoup d'argent à Hollywood, mais c'est un peu ça le récit.
Philippe, peut-être tu voulais intervenir.
Oui, j'abonde dans tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais je voulais surfer sur quelque chose que Alain expliquait tantôt. D'un, je suis content de rencontrer quelqu'un qui partage le même optimisme que moi envers l'effondrement. Moi, je me définis comme un optimiste volontaire. Un peu, mais ça, c'est. On pourrait y revenir plus tard. Au niveau du rôle de la fiction qui met en scène des effondrements, je trouve intéressant l'idée d'une catharsis, justement, de la science-fiction comme étant un outil qui nous aide à réfléchir sur une possibilité réelle qui est que notre société peut s'effondrer. Il y a un autre aspect qui me vient à l'esprit aussi, c'est que est-ce que l'effondrement n'est pas un outil au service de la science-fiction? Pourquoi cette pensée? C'est que je repense à une histoire que j'ai écrite, une novella, qui a été publié en 2010, si j'ai bonne mémoire, qui mettait en scène un futur post-apocalyptique où différentes races de post-humains, des chimères humaines animales, des cyborgs, avaient remplacé les êtres humains après une sorte d'apocalypse mondiale. Et certains me demandaient si j'avais une vision, si ma vision du futur, correspondait à ce qu'il y avait dans la nouvelle. Est-ce que je voyais le transhumanisme, le post-humain remplacer l'humanité, tout ça, après une apocalypse, une guerre entre humains augmentés et pas. Et moi, j'ai, avec la plus grande candeur du monde, dit non, c'est qu'une apocalypse était commode pour créer un nouveau monde. C'était une pure commodité. Et c'est vrai que c'est un outil fantastique. On veut créer un nouveau monde, on efface l'ancien, on fait une table rase, on tue ce qu'on veut et on crée autre chose. Et je me demande si, en employant cet outil-là à outrance, la science-fiction n'a pas créé un mythe, une vision au niveau de l'effondrement qui s'est un peu auto-entretenu. C'est une hypothèse que je lance, une question que je lance, je n'ai pas la réponse.
C'est une question que je voulais aborder justement sur le rôle des auteurs de fiction. Souvent, alors je voulais au départ, mais c'est bien, c'est vivant, on peut le faire dans ce sens-là. Je me demandais, pour vous, est-ce que c'est l'époque justement, son contexte, ses enjeux qui dicte consciemment ou inconsciemment l'écriture, les récits des auteurs de science-fiction, ou est-ce qu'il y a une sorte de prophétie autoréalisatrice des auteurs de science-fiction qui racontent des choses qui sont très inspirées, et puis on les met en œuvre derrière parce qu'on est inspiré par leur œuvre. Comment on peut penser à... On dit souvent que Asimov, c'est un prophète. On peut parler d'Orwell. Est-ce qu'il n'a pas créé aussi certaines conditions
Il n'a pas créé l'URSS.
Il n'a pas créé l'URSS. Mais par rapport à la...
Pardon.
Non, mais c'est bien. par rapport à cette question-là de prophétie autorisatrice ou d'être pris par son époque et du coup, finalement, l'absorber et puis la restituer. Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus ?
Non, mais c'est évident que les auteurs de science-fiction déploient un imaginaire qui ensuite est inspirant pour les ingénieurs, pour les chercheurs, pour les créateurs de start-up, etc. Et qu'on sait, par exemple, tous les gros gourous de la Silicon Valley sont énormément inspirés par K. Dick, par Asimov, par énormément de textes de science-fiction. Et parfois, leurs idées viennent de là, quoi. Donc, c'est évident qu'il y a un rôle d'inspiration. Et réciproquement, c'est-à-dire que pour moi, ce qui se passe, par exemple, sur les GAFA aujourd'hui est une source d'inspiration extraordinaire pour créer des dystopies sociales, politiques, etc. Donc, c'est une boucle auto-entretenue. On fonctionne tous, et même les médias. Quand tu vois moi, je suis toujours sidéré, par exemple, sur les médias pseudo-scientifiques, j'appelle ça. C'est-à-dire que c'est les médias qui se contentent de faire des effets d'annonce à partir d'inventions qui sont à peine à l'état de prototype, mais qu'on nous présente comme des choses abouties du genre « ça y est, on va pouvoir lire la pensée, on peut lire les rêves, on peut lire la pensée », alors qu'on a fait une expérience absolument minuscule, qu'on est à genre 153 ans de pouvoir le faire, etc. Et à quoi ils servent ? Ils servent à alimenter aussi cet imaginaire-là, quoi, tu vois. Donc les journalistes, les auteurs de SF, les politiques parfois aussi, on alimente tout cet imaginaire-là, et les créateurs, bien sûr, de start-up, notamment technologiques. Donc c'est plus une boucle comme ça qui s'auto-entretient, c'est évident, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est de voir comment certains films, parfois, te donnent l'indication de ce qui va se passer à l'étape suivante. Tu vois, moi, si je prends un film comme Heure, par exemple, ce film où on a une IA donc, personnalisée dont le héros devient amoureux, pour moi, c'est très clairement l'étape suivante, par exemple, de déploiement de la technologie chez GAFA, quoi. C'est-à-dire que, oui, on va avoir des IA personnalisées. Oui, ça va être la nouvelle façon, si tu veux, de capturer l'attention des gens et de générer comme ça un alter ego numérique qui va à la fois siphonner toutes nos traces numériques. Et puis, et nous, on va développer une relation affective très forte avec cette IA. Là, il y a une intuition, il y a une véritable intuition, tu vois. Et donc, cette intuition va inspirer peut-être des dirigeants de start-up, va inspirer peut-être Google, etc.
Mais moi, en retournant la question, comment on peut imaginer ça de façon réelle avec quelles ressources puisqu'il y a une dépression des ressources aussi. On est dans une accélération de la consommation, de la technologie. Il y a quelque chose d'assez exponentiel et on n'a pas les moyens de soutenir ça. Donc je vois bien l'ouverture, l'imaginaire, comment ça peut la développer en chacun des auteurs de fiction. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on aborde cette question-là à la fois sous l'angle réel, quelle voie vous imaginez possible réellement pour l'humanité, et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui est intéressant de faire en fiction par rapport à ce que vous imaginez de l'avenir. Voilà. Sylvie
Oui, par rapport à l'énergie, je pensais aux ouvrages de Paolo Bacigalupi, qui doit être quelque part par ici. Et effectivement, il est dans le futur qu'il imagine, c'est un futur post-pétrole, et où en plus, certaines entreprises bricoleuses de génétique et de plantes ont pris une empreinte assez importante. Mais il y a quand même, on a trouvé d'autres solutions. Mais il existe des systèmes, c'est-à-dire qu'il y a des je ne saurais pas très bien écrire d'ailleurs, des systèmes de ressorts particuliers que les gens doivent enrouler et qui produisent de l'énergie une fois quand ils sont libérés. On a trouvé autre chose et on trouvera autre chose parce que de toute façon, on sera obligé. On n'aura pas le choix.
On ne va
pas
revenir en arrière.
C'est maintenant, oui.
Parce qu'il y a une double... il y en a plus que ça. Mais il y a une équation qui est compliquée, c'est qu'il faudrait laisser le CO2 sous terre. Il faudrait laisser les énergies fossiles sous terre pour pas qu'ils se libèrent dans l'atmosphère. Et là, on a déjà dépassé des limites très, très, très inquiétantes et irréversibles. Ça, c'est factuel. Même si on arrêtait aujourd'hui toute émission de gaz à effet de serre, il y aurait par inertie un réchauffement réel. Voilà, on ne peut pas l'empêcher. Donc de l'autre côté, si on n'a pas d'énergie fossile pour faire fonctionner notre grande machine, notre société industrielle, là ça s'effondre aussi. Donc on est dans une sorte de piège, entre guillemets. On peut appeler ça la transition, on peut essayer d'imaginer des voies justement pour l'humanité pour s'en sortir. Et donc, alors effectivement, peut-être que ce système de ressort va nous aider, mais voilà, faut s'y atteler sérieusement. Il y a des gens qui essayent de trouver des voies qui soient soutenables dans le réel pour qu'on puisse tout simplement continuer notre existence. Je sais que Milad voulait intervenir sur, mais c'était peut-être sur un autre sujet, mais on peut faire des circonvolutions, c'est pas très grave.
Non, c'est juste en réagissant, il me vient à l'esprit qu'évidemment Samuel Butler, qui a donné son nom pour les amateurs de science-fiction, connaît ça par cœur, au djihad butlérien dans les romans de Frank Herbert Dunne, hein, qui est raconté déjà au 19e siècle, qu'on est en train, au fur et à mesure d'avancer, de devenir délivreur d'éléments de nourriture aux machines parce qu'elles s'autonomisent. C'est un texte célèbre, Darwin Among the Machines, qui est très, très beau. Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire l'humain lui-même, non pas il perd le contrôle, mais il devient quelque chose qui va alimenter et nourrir la machine et du coup notre contrôle sur l'environnement. Le premier qui va nous échapper d'un certain point de vue, sauf si c'est les machines elles-mêmes qui vont lancer le scénario comme ça. Je crois là, il y a quelque chose d'assez intéressant, surtout avec l'appauvrissement des ressources. Mais en même temps, il y a beaucoup de scénarios qui suggèrent qu'on a tellement fixé sur des ressources actuelles dans la manière dont on les utilise qu'on n'arrive pas à imaginer, à penser à d'autres ressources, d'autres manières d'exploiter, de construire des objets qui vont produire de l'énergie autrement et ainsi de suite. Je crois que je suis pas aussi catastrophique, en tout cas moi je suis peut-être également volontairement optimiste de ce point de vue là mais
Oui, alors il y a quand même beaucoup de gens qui s'attellent à ces questions, hein. C'est pas tout le monde découvre pas ça aujourd'hui.
Je une remarque que, excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Ce que vous dites à propos des technologies, en effet, c'est un fait bien documenté que beaucoup de prototypes d'appareils énergétiques nouveaux existent de par le monde. Je pense au Québec, entre autres, il y a la société Hydro-Québec qui fournit en hydroélectricité notre province, avait mis au point un moteur roue électrique beaucoup plus performant que les moteurs à essence conventionnels. Il y a eu des expériences extraordinaires de fait là-dessus. Donc, cette technologie-là existe, mais elle a été tablettée. Justement, une compagnie a arraché les brevets et s'est arrangée pour cacher ça, et ça a fait un scandale. Donc, il y a quelque chose de choquant là-dedans et de rassurant en même temps, de dire, oui, il y a des technologies, des choses qu'on ne sait pas qui seraient accessibles, mais c'est extrêmement choquant parce qu'on les cache.
Jean-Noël, tu voulais dire?
Oui, alors je comprends l'espoir comme ça, se dire, bon, il doit y avoir des choses qui vont tout régler. Mais une fois, j'ai vu aux nouvelles qu'on est en train de fabriquer des robots abeilles qui allait pouvoir polliniser, puisque les abeilles sont en train de disparaître. C'est une espèce en voie de disparition depuis cette année, comme vous savez peut-être. Et là, je me suis dit, bon, si jamais on commence à se dire que des robots vont régler le problème, ça paraît n'importe quoi, quoi, des robots abeilles. Et je pense, en fait, qu'on ne mesure pas complètement où on va. Voilà. Parce que c'est compliqué, quoi. L'environnement, c'est grand. Il y a beaucoup de choses, on voit pas tout.
Oui, il y a quand même un facteur d'optimisme massif pour moi sur l'énergie, c'est le solaire, quoi. C'est-à-dire qu'on sait que c'est l'énergie infinie, en tout cas pour 5 milliards d'années. On sait qu'on la sous-utilise complètement aujourd'hui. On sait qu'il y a des projets de routes solaires qui sont développés, qui vont être extrêmement intéressants parce que les surfaces de routes représentent des surfaces absolument colossales en France comme partout ailleurs dans les pays développés. Donc, c'est évident qu'on continue sur la voie carbone aujourd'hui, sur la voie pétrole, je veux dire aujourd'hui, parce qu'on a encore des c'est encore facile pour ces compagnies-là qui squattent le domaine énergétique de siphonner tout ce qui reste. Mais ces boîtes-là, on sait qu'elles ont en coffre la plupart des brevets énergétiques de la transition et qu'après, elles assureront cette transition vers le solaire. Là-dessus, faut... Voilà. Moi, je pense et je sens, je ne sais pas si vous sentez ça comme ça, mais que la panique qu'il y a eu à un moment donné sur le pétrole s'est largement dissipée parce qu'on sait que derrière, il y a une façon, effectivement, avec l'éolien, avec le solaire, avec le marée motrice, avec la géothermie, avec l'hydroélectrique, etc., de passer outre le pétrole. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on va siphonner la dernière goutte pour éviter de perdre de l'argent. C'est tout, quoi, tu vois. Mais que les moyens de transition, ils existent, quoi.
Alors, c'est pas si simple parce que... Non, c'est pas si simple parce qu'il y a... on fait appel à des métaux dont on ne dispose pas en quantité. Alors pour la maintenance, pour le prolonger, c'est pas du tout dit que c'est complètement efficace. Le photovoltaïque, actuellement, il y a des choses qu'on ne sait pas recycler, il y a des choses qui ont une durée de vie qui est limitée. Donc il faut faire attention aux faux espoirs, il faut mettre ça au tamis du réel, quoi.
Il y a beaucoup de terres rares, par exemple, qui sont le monopole de la Chine et qui sont un vrai problème si le jour où on en sera dépendant. Et pour le pétrole, ce qui a un petit peu changé et fait changer les cours aussi, c'est qu'on s'est mis au pétrole sale, en fait, les sables bitumeux, etc. Et voilà, ça pose des problèmes géologiques pas possibles. Mais on peut espérer qu'il y ait quand même des innovations qui finiront par arriver. Voilà. Mais je ne sais pas si on peut espérer complètement et être sûr de tout.
Milad, vous voulez...
Non, je veux juste dire juste un mot en écoutant surtout sur les abeilles robots. J'aimerais rappeler une très belle définition de Gilbert Simondon de ce que c'est que l'artificiel. Il dit que c'est du naturel suscité. Je crois que c'est très important qu'on n'ait pas une notion toujours du naturel dans le sens le plus simple, avec ses différences avec le soi-disant artificiel, je crois. Il y a quelque chose que le naturel, à quelques exceptions près dans notre histoire, en tout cas en Occident, a toujours été indissociable de la technique d'une certaine façon. Alors effectivement, il y a eu des changements de registre et de paradigme, mais néanmoins...
Effectivement, il y a un moment où la technique... crée des machines qui peuvent nous libérer, ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure. Mais c'est aussi parce qu'il y avait une énergie qui était abondante et peu chère. Donc on ne va pas se retrouver dans cette équation-là. Ouais, non, c'est pas de la vapeur. Non. sur le sujet de la création, justement, on voit que l'histoire structure un petit peu aussi nos esprits, les récits nous structurent aussi. Est-ce que, et là je m'adresse plus aux auteurs de fiction, est-ce que vous avez l'impression que vous avez un rôle à jouer là-dedans? On a un petit peu évoqué ça tout à l'heure. Et est-ce que ça rentre en compte quand vous écrivez quelque chose, l'avenir du vivant, de l'humanité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire et où est-ce que cette notion de responsabilité, c'est un fardeau et c'est une liberté artistique que vous vous donnez à vous-même sans vous encombrer avec ça?
Bon, je vais vaincre ma timidité et y aller d'abord. Mais je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'en tant que quelqu'un ayant passé par la bioéthique, je me suis déjà interrogé sur la responsabilité éthique de l'auteur de science-fiction. Et avec Elisabeth Von Arbaugh, on a jasé des heures de ça sans parvenir à trouver de réponse. Et c'est très délicat parce que en tant qu'artiste, moi, ce qui me guide dans la rédaction de mes récits, c'est le côté délirant. Je suis quelqu'un qui adore les Monty Python, les aventures du baron de Munchausen, c'est mon film préféré. J'ai tendance à penser à quelque chose de délirant et à essayer de le rationaliser par après pour l'inscrire dans un récit de science-fiction. Sans me demander est-ce que c'est moral ou pas, est-ce que ça porte un message ou pas. Je suis quelqu'un, je l'avoue, qui veut avant tout s'amuser. Et j'ai tendance à penser que si je veux passer un message ou susciter une réflexion, j'emploierais autre chose que la fiction. J'écrirais un article ou je ferais une thèse comme j'ai eu le malheur d'en rédiger une il y a 4 ans. Où je ferai des publications, où je passerai par un autre moyen. Pour moi, c'est clair dans mes récits, en tout cas je l'espère, que je m'amuse et que je ne prétends pas faire de prophéties sur l'humanité ou de faire de recommandations morales. Cependant, si je veux m'exprimer sur ces questions-là, je le fais sur Facebook ou je le faisais sur un blog autrefois ou des choses comme ça. Donc j'ai eu tendance, moi, à compartimentaliser, oui, c'est le bon verbe, je crois, bien conjugué, ces deux fonctions-là. Mais j'avoue que c'est une question qui est très complexe. Jusqu'à quel point qu'on peut freiner notre création ou l'orienter pour faire quelque chose de moral. Et ce sont des bonnes questions, mais il me semble qu'il y a un certain danger pour la créativité aussi.
Alain, peut-être?
Oui, ce qui est compliqué, c'est que bon, moi, sur la responsabilité, c'est clair que je considère qu'on l'a. En tant qu'artiste, on a toujours une responsabilité. Je considère que dès qu'on s'adresse à un public, il faut se poser la question de l'impact ou de l'empreinte qu'on laisse dans la tête de lecteurs ou de spectateurs. sur ces sujets-là, la difficulté, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, développer une dystopie extrêmement angoissante, extrêmement anxiogène, pour générer de la part des lecteurs une forme de réaction. Tu vois, c'est la fin de 84, par exemple. 84 est clairement fondée sur une vision atroce du devenir de l'humain, et qui fait que moi, quand j'ai posé ce bouquin-là, j'étais révolté, quoi. 84 m'a toujours révolté comme bouquin. Je comprends pas comment on peut délivrer un message aussi profondément noir. Et en même temps, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est ça qui me donne aussi la force et l'envie d'écrire d'autres livres plus positifs, etc. Et paradoxalement, certaines fois, je me dis, on est là pour créer aussi du désir, du désir de changer le monde, du désir de révolution, du désir de transformation sociale, etc. Et donc, c'est important de générer des utopies qui permettent de montrer... et j'ai pas la solution, parce qu'elle dépend de chaque lecteur aussi, quoi, tu vois.
De montrer des voies désirables aussi.
Voilà, ouais. Et donc, de croire qu'on manipule le lecteur, ou qu'on peut dire, allez, je vais faire une dystopie vraiment flippante, et vous allez voir, les gars, ils vont changer leur comportement, et je vais délivrer du coup un message opposé, parce que... Non, t'en sais rien, en fait, quoi, tu vois. Et à chaque fois, tu te poses la question. Et pareil, si tu fais une utopie désirable, les gens disent, ouais, c'est un peu naïf, c'est pas crédible. Et finalement, ça va pas les secouer dans leur conscience, ça va pas leur donner envie de bouger. Donc, très compliqué. Ça, c'est très compliqué. Et en plus, parfois, on acclimate, pire encore, on acclimate des situations horribles en les rendant parfaitement naturelles, parce qu'on les met dans un récit et dans des existences où tu te dis, oh, bah, finalement, tout le monde est contrôlé, c'est une société de contrôle, les gens vivent bien, tout va bien. Et finalement, on acclimate des réalités qui sont en fait atroces, quoi, tu vois. Donc on a beaucoup de problèmes par rapport à ça, quoi. Mais tant mieux qu'on maîtrise pas ça. Par contre, on a un enjeu dans le champ de l'imaginaire, c'est clair. On articule, on met en récit des champs imaginaires qui vont modifier les comportements. Oui. Et on pré-scénarise certains comportements. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est ce que Yves Citon, dans un très beau livre, il dit, attention, l'imaginaire, la fabrication de fiction, c'est une pré-scénarisation de comportements possibles. C'est-à-dire que les gens vont finalement se dire, ah oui, pour me révolter, si je voulais me battre contre ce truc-là, il faudrait que j'agisse comme le héros ici, ou si je veux pas que ça s'effondre, il faudrait que je fasse ceci ou cela. C'est-à-dire que tu indiques effectivement un chemin, tu vois. C'est ça qui est très différent, je trouve, du l'essai. L'essai, bon, tu t'adresses à l'étage rationnel, et puis tu dis, voilà, ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave, attention. Quand tu crées une œuvre de fiction, tu t'adresses à l'émotion, à l'affect, et à un ensemble comportemental que tu vas plus ou moins induire ou conduire. Donc ça, c'est chaud à gérer aussi.
Puis on peut pas être porté que par un message à délivrer, effectivement, ça serait totalement réducteur. Et... Philippe, tu voulais dire quelque chose ?
Non, je voulais juste dire qu'Alain, je vous adore. Ouais, merci. Non, je vous connaissais...
J'adore les Canadiens.
Mais, non, je vous connaissais de nom. J'avoue que je n'ai pas eu l'occasion de lire vos livres, mais je vais pouvoir réparer ça plus tard. Mais je vous entends, puis je me dis, ah non, j'aime bien ce que ce monsieur dit. Mais non, c'est parce qu'en vous écoutant, je réalise, c'est peut-être le côté optimiste aussi. Je pense à certains de mes collègues auteurs qui, eux, dans leur roman, aiment ce qui est sombre, aime montrer le côté noir de l'être humain. Puis un film qui est trop optimiste, tout ça, c'est pas bon. Il faut montrer que l'être humain est un animal sale et tout. Et moi, j'avoue, je n'aime pas ça. J'aime montrer qu'il y a de la lumière, une étincelle de lumière quelque part. Et ça se reflète même dans le roman sur lequel je travaille en ce moment, où il y a plusieurs personnages point de vue, dont un qui est un monstre, qui serait assez cruel, mais qui connaît sa rédemption. Parce que je crois que tout le monde peut s'améliorer. Ouais. Mais bref, je vous adore.
Sylvie, non ? Je croyais. Non.
Je suis presque d'accord. C'est-à-dire que oui, effectivement, je pense qu'on devrait être, dans le meilleur des cas, absolument responsable des images, des idées, des mèmes qu'on fait circuler quand on est un auteur. Dans le meilleur des cas, l'auteur devrait être conscient de ce qu'il écrit et conscient des images inconscientes qu'il propage. Et c'est à peu près là que je m'arrêterai, parce que j'ai tendance à penser que mes lecteurs sont des entités libres et intelligentes et qui se débrouilleront tout seuls.
Ça me fait penser à une discussion qu'on avait eue, Jean-Noël, où tu disais que ce qui t'inquiétait, c'est quand les récits devenaient positifs, en fait.
Ah oui, je disais.
Oui, qui cherchaient un peu à rassurer, et que tu avais l'impression que s'ils commençaient à vouloir être rassurants, c'est que ça devenait un peu inquiétant.
Ah oui, voilà, quand on cherche à rassurer les gens, quand on dit n'ayez pas peur, ça veut dire qu'il y a une raison d'avoir peur. Ça marche toujours.
Tout va bien se passer.
Il y a aussi par exemple, un film comme, je crois que c'était Miracle à Milan, c'est la misère, c'est horrible et tout, un film des années 50 ou 60. Et à la fin, tout le monde s'envole sur des balais magiques. Donc ça, c'est un happy end, mais qui est complètement absurde. Donc ça nous dit, non, en fait, il n'y a rien qui s'arrange. Et c'est un peu exactement la même chose que Elysium, dont on voit passer les images à chaque fois.
Mais je crois qu'on les voit plus passer parce que ça. J'ai travaillé ce diaporama pendant des plombes pour rien.
Mais donc dans Elysium, il y a les pauvres sur Terre et puis en orbite, il y a des humains qui vivent très bien, qui ont un monde à peu près parfait, mais qui ont besoin des pauvres. Voilà. C'est très didactique, un peu marxiste. Et puis ça se finit, à la fin, après avoir cassé la gueule à quelqu'un, Matt Damon obtient que les très riches s'occupent des pauvres. C'est relativement absurde en fait, mais c'est assez drôle.
On arrive à la fin, et il y aura peut-être quelques questions, au moins une ou deux, mais on va peut-être pas en prendre beaucoup parce qu'on arrive vraiment à la fin de la table ronde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des micros là ? Ouais.
Ouais. Alors la question est un peu longue, mais au début de la conférence, ce qui semble ressortir, c'est que c'est la propriété des moyens de production des technologies qui pose problème. La question, du coup, c'est est-ce que la libération de ces technologies, de ces moyens de production, est une forme de réponse à cet effondrement qui s'apparente proche ?
Ouais, tu parles de l'open source, non ? Des choses comme ça ?
Entre autres, ouais. Entre autres.
Bah, ça suffira absolument pas. C'est pas parce que c'est open source qu'on va pas abuser, user et aller au bout de l'exploitation de ces technologies, quoi. Tu vois, c'est pas. Bien sûr, moi je suis pour l'open source et je trouve ça extraordinaire, mais ça n'empêchera pas, si on veut exploiter une technologie jusqu'à ses extrêmes, de le faire. Alors on peut considérer, je suis méchant en disant ça, parce qu'on peut considérer que c'est généralement des citoyens qui sont plutôt responsables, plutôt politiquement situés dans une sphère qui réfléchit à l'impact, en tout cas l'utilisation des technologies, qui va s'en servir si c'est open source. Mais ce n'est pas une garantie absolue, quoi.
Milad, vous vouliez peut-être dire quelque chose ?
Non, c'est à la fois absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'on est d'accord. Et surtout, on a des exemples actuels où l'open source, ou son idéologie telle qu'elle a été travaillée dans des cas particuliers, a produit des monopoles énormes. Google est un exemple qui manie ça d'une façon assez impressionnante, hein. À part le PageRank, du coup, ça peut être problématique. Par contre, je crois, à mon avis, je partage complètement votre idée, ça revient à la propriété intellectuelle. Et là, je crois, il faut qu'on ait une plus grande souplesse de libre circulation pour que les gens puissent exploiter, expérimenter, au lieu d'être bloqués par des règles aujourd'hui qui ne correspondent plus à la réalité.
Aujourd'hui, l'industrie n'aime pas trop, quand même, les choses qui peuvent être réparées. Et donc, même ne serait-ce qu'un billet d'une marque suédoise de meubles, une fois qu'on a vissé, dévissé, on peut plus ça marche plus, quoi. Il est cassé, alors qu'autrefois, les meubles se gardaient, se réparaient, etc. Et l'open source, c'est un peu une manière de vouloir rendre réparables les objets, notamment numériques.
Il faut vraiment lire Philippe Biwix et L'âge du low-tech, qui parle justement déjà à la source, il faut nettement moins consommer, pouvoir essayer de mutualiser, de réparer. Voilà, il y a énormément de pistes pour que... voilà, on parlait d'effondrement, on a encore eu du mal à parler d'autre chose que la fin du monde ou du business as usual. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait en tête qu'il y ait des récits possibles qui puissent être un changement de mode de vie, de civilisation, si on veut aller plus loin, qui soit ni post-apocalyptique, ni la toute-puissance de la technologie qui va nous faire coloniser toutes les planètes de l'univers. Mais bon. Il y avait d'autres questions.
Alors, oui, du coup, je...
Vous êtes où ?
Je ouais. Rebondis sur ce que vous venez de dire. Vu qu'on a trois auteurs et puis plusieurs scientifiques, est-ce que quelqu'un pourrait justement nous faire le récit, un petit travail comme ça, sur le vif, en quelques phrases de comment pourrait être la société, par exemple, en 2200. Bon courage, vous avez 2 heures.
Il y a un café pour...
Quelques phrases, voilà, si quelqu'un pouvait nous décrire sa vision, par exemple, de la France en 2200, le modèle...
Mais à quel mois ? Le mois de juillet ou
le mois de juillet 2200. Non, voilà une projection.
Alors, mois de juillet, c'est Jean-Noël. C'est... Bon. Mois d'août, ça aurait été Alain, mais bon, voilà.
Est-ce qu'il y aura toujours une société française en 2200 ? Moi, je fais partie des très pessimistes, en fait.
L'association Adrastia dont on parlait se dit pas qu'il faut, enfin si sûrement, qu'il faut empêcher le déclin, mais se dit qu'il faut commencer un travail de deuil en fait. C'est un peu ce principe-là.
Oui, oui, en fait, il y a un oxymore qui est de construire un déclin. Voilà. Alors est-ce que quelqu'un, je crois que ça va être un peu difficile de répondre à cette question en deux
il
minutes.
Il fera
mais,
chaud.
Comment?
Il fera chaud même en novembre.
Moi, étant québécois, je ne peux pas répondre à la question.
Oh. Ah bah bravo. Une dernière petite question. Du coup, je passe mon micro.
Oui, vous parliez de catharsis par rapport aux œuvres et par rapport à ce qu'elles peuvent provoquer. Après, je me dis, la catharsis, c'est aussi la vôtre, en fait, parce que vous imaginez donc des zones aussi, enfin, des œuvres apocalyptiques effroyables, et j'imagine qu'on se remet difficilement de ça. Mais par exemple, pour le replacer dans le réel, je veux dire, on a mis du temps aussi avant de se rendre compte que ces zones industrielles aussi avaient complètement pollué notre espace de vie et d'existence, à savoir, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui a osé aussi parler de la France moche, parce que c'est moche ces zones industrielles, c'est moche ces espaces commerciaux. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été amenée à faire un film sur dans l'Aude, à UDE, là où il y a donc la future déchetterie nucléaire, et les gens étaient amenés à se battre pour conserver une forêt. Et donc, ils ont utilisé le mot forêt. Et moi, quand je suis allée sur le terrain, je n'ai pas vu une forêt, j'ai vu un micro-bois. Parce qu'en fait, ça fait tellement pitié. Il n'y a que des zones agroalimentaires. Enfin, bon, voilà, tout a été rasé. Et donc, on est dans l'industrie agro-technologique. Et maintenant, il ne reste que des petits bois. Donc, c'est ça aussi, qu'est-ce qu'on conserve? C'est des zones naturelles, je suis désolée. Mais les parcs, et même la ZAD, c'est moche. Enfin, si on ouvre les yeux, je suis désolée, la ZAD, à part ce que les gens ont construit, la zone est moche parce qu'elle a déjà été détruite, en fait. Et voilà, donc je pense que c'est ça aussi le réel, c'est aussi à un moment donné, pas aller chercher l'utopie ou l'uchronie, c'est-à-dire la beauté sur des planètes hyper loin, mais de regarder ces petites zones de beauté vierges qui existent encore et qui sont minoritaires aujourd'hui.
Donc c'était plus un témoignage qu'une question.
Je peux répondre.
Il y a quelqu'un qui. Ah oui, pardon. Si
je peux répondre.
Oui. Bien sûr.
J'ai lu les premiers ouvrages de science-fiction qui parlaient de ces questions-là, de l'environnement notamment, quand j'avais une quinzaine d'années, et j'ai lu les livres de John Brunner qui s'appellent Tous à Zanzibar ou qui s'appellent The Ship Look Up, donc Le Troupeau Aveugle, où il parlait déjà de tous ces problèmes. Donc c'était il y a 30 ans. Des tas de gens l'ont dit et un certain nombre de gens n'ont rien écouté. C'est ça.
Voilà, bon, maintenant,
c'est pour ça que moi, j'en suis arrivée à une espèce de sorte d'état désabusé en me disant mais bon, mais ça fait 30 ans qu'on le sait, quoi, les mecs.
On peut remonter plus loin encore, je pense. On va en rester là, finalement, puisque on va dépasser sinon le temps qui nous est imparti. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous.
Merci.